pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, j'ai envie de vous dire que quoi que vous fassiez, essayez d'être attentif. Car c'est une véritable leçon d'économie que nous allons vous faire aujourd'hui. Mais attention, pas à l'ancienne, version 21e siècle. Fini la vision de la révolution industrielle basée sur l'extraction des matières premières et des énergies fossiles pour nourrir des machines toujours plus gourmandes qui fabriquent des produits qui font le tour de la planète. Pourquoi ? Pour enrichir une minorité plutôt blanche et occidentale. Cette vision montre chaque jour ses limites. Le climat s'emballe, la biodiversité disparaît, l'économie mondiale est au bord de la crise cardiaque et les tensions sociales et géopolitiques se multiplient partout. Il faut donc changer de logiciel. Les ingrédients de base sont l'intelligence humaine, la puissance des écosystèmes et un zeste de technologie. Mon tout s'appelle l'économie symbiotique et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est déjà installée dans de nombreuses parties du monde.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Isabelle Delannoy.
Bonjour.
Vous êtes ingénieure agronome, vous dirigez l'agence Dougreen. 10 ans de recherche et 6 ans d'écriture ont été nécessaires pour publier l'économie symbiotique chez Actes Sud. 336 pages qui secouent les consciences, mais qui font du bien en même temps, parce que l'économie symbiotique que vous allez nous définir est une formidable opportunité, finalement, pour sortir du cercle vicieux dans lequel nous sommes coincés. Alors, vous allez nous expliquer en quelques mots ce qu'est cette économie, en quelques mots seulement, parce qu'on reviendra plus dans le détail tout à l'heure. Mais l'idée principale, c'est quoi ?
L'idée, c'est qu'on est en train d'inventer aujourd'hui, depuis environ une cinquantaine d'années, une économie qui est capable de régénérer ses ressources, qu'elles soient écologiques, économiques, les parties prenantes avec qui on travaille, hein, ses fournisseurs, ses clients, etc., ses usagers, et sociales.
Donc à partir de là, on mutualise les trois et on va s'en sortir.
Quand on rapproche les trois, en fait, on a des logiques qui sont apparues dans le monde entier où ce que j'ai mis en évidence, c'est qu'elles fonctionnaient de la même façon et qu'elles travaillaient en écosystème en fait, écosystème industriel, écosystème économique, écosystème vivant, écosystème sociaux, et qu'elles sont capables de régénérer leurs ressources. Et quand toutes ces logiques qui sont apparues de façon très disparate dans le monde, hein, l'économie circulaire, la permaculture, la culture, l'agroécologie, les énergies...
Ce que Bénédicte Magnier, dans son livre, appelait les révolutions tranquilles.
Exactement. Mmh. C'est ce million de révolutions tranquilles qui est apparu sur toute la planète, eh bien, fonctionne de la même façon et est apparu dans tous les secteurs. Et donc, ça forme un système économique complet. Et c'est né, il semble que dans le silence, nos sociétés ont vraiment accouché d'un nouveau modèle.
Alors, je le disais en introduction, il y a urgence à repenser le modèle économique dominant puisque nous sommes à la fin d'un cycle, comme nous le démontre le chercheur Hugo Bardi. Nous l'avions reçu dans C'est pas du vent au moment de la publication de son rapport intitulé Le grand pillage, comment nous épuisons les ressources de la planète. C'est un rapport validé par le Club de Rome qui rassemble des scientifiques et des économistes de plus de 50 pays. C'est cette même instance qui nous avait alerté il y a plus de 40 ans déjà avec le rapport Meadows sur les limites de la croissance. Hugo Bardi donc nous avait expliqué que nous étions désormais dans un cercle vicieux.
On utilise beaucoup d'énergie pour produire des minéraux. Il faut penser qu'aujourd'hui, on dépense plus ou moins 10% de l'énergie totale produite par les systèmes économiques humains. 10% est utilisé pour extraire les minéraux qu'on utilise. Donc c'est une quantité importante. Pour extraire les minéraux, il faut beaucoup d'énergie. Et sans énergie, on ne peut pas extraire les minéraux. Ça, c'est le problème que nous avons, parce que c'est l'énergie qu'on utilise, c'est aussi un minéraux. C'est du pétrole, du charbon, du gaz. Et ça, ce sont des ressources minérales. Et comme ressources minérales, elles ne sont pas renouvelables. On s'est créé vraiment un grand problème, un problème d'avoir pensé que les minéraux étaient vraiment infinis. Parce qu'on a vu qu'on continue à les extraire, on continue à augmenter, à croître avec l'extraction des minéraux. Et ça, ce n'est pas possible toujours. On ne peut pas continuer à extraire à ce rythme, à ce débit de production. C'est vraiment difficile. On se trouve maintenant dans cette difficulté. Pourquoi ? Pas parce qu'on a fini les minéraux. Il y en a encore beaucoup. Mais on se trouve dans la difficulté d'extraire des minéraux qui sont beaucoup moins concentrés. Il faut de plus en plus d'énergie, simplement pour garder les débits d'extraction qu'on a maintenant. Mais l'énergie, c'est minéral aussi. Et il faut augmenter la quantité d'énergie qu'on utilise pour obtenir de l'énergie. Et ça, c'est un cercle qui nous donne les problèmes économiques qu'on a maintenant.
Voilà poser une partie de l'équation, Isabelle Delannoy. Mmh. C'est-à-dire que finalement, on n'a plus les moyens de nos ambitions.
Oui, c'est-à-dire qu'on a une économie qui, finalement, si on prend du recul, ça fait des milliers d'années qu'on est sur une économie qui fonde son développement sur l'extraction des ressources, sa transformation, son utilisation, et de les jeter, en fait. Une économie très linéaire, qui demande de plus en plus d'énergie. Puis, depuis qu'on a eu ces énergies très puissantes, qu'ont été le charbon, puis après le pétrole, le gaz, eh bien, on a pu extraire de plus en plus vite, de plus en plus fort, et c'est devenu un moteur économique qui a dépassé les limites écologiques planétaires. Et ça marchait tant qu'on avait des écosystèmes assez résilients pour pouvoir assurer nos fonctions vitales, tout simplement d'avoir un climat stable, une eau pure, un air pur aussi, des sols viables pour se nourrir. Et à partir du moment où elle est devenue trop puissante, trop extractive, ça a touché même nos équilibres vitaux.
Et comme vous l'écrivez dans votre livre, ce qui nous semblait immuable, c'est-à-dire le chant des oiseaux, ou comme vous le disiez, l'eau pure, le cycle régulier des saisons, finalement tout cela est désormais bouleversé parce que nous avons cru que nous pouvions extraire et produire sans limite.
Oui. Et c'est vrai que moi je me souviens quand j'étais étudiante, quand j'étais en classe préparatoire d'école d'ingénieur agronomie, notre prof de géologie nous disait la Terre n'a pas le même temps que nous. Elle compte en millions d'années. Aujourd'hui, les scientifiques n'ont même pas le temps de rendre leur rapport d'étude que les phénomènes se sont déjà accélérés. Donc elle va maintenant au contraire plus vite que nous. Et ça, c'est un changement d'échelle inimaginable. Beaucoup d'études le montrent, ça, sociologiques, d'assurance d'ailleurs, des grandes compagnies d'assurance qui font des études au niveau du monde entier, qui montrent que cette dégradation environnementale, on la voit au cours d'une vie, ce qui est incroyable.
C'est l'heure de payer la facture.
Ça s'accélère.
Et alors du coup, vous le rappelez dans votre livre, un tiers des sols de la planète est dégradé, plus de la moitié des forêts et des zones humides du monde ont disparu en un siècle, les espèces s'éteignent à un taux entre 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel d'extinction. Bon, je m'arrête là parce que les auditeurs vont éteindre leur poste de radio et nous on va déprimer dans notre studio. Mais c'est vrai que la liste des maux est immense, donc c'est là où on a besoin d'un sursaut.
On a besoin d'un sursaut, et puis moi j'ai compris ce sursaut en fait en observant finalement ce qui était apparu. C'est là que j'ai compris que en fait, on est dans une économie extractive et on peut la qualifier d'extractive parce que toute économie n'est pas forcément extractive. C'est-à-dire que, vous savez, si tout autour de vous est blanc, vous ne pouvez même pas voir le blanc puisque tout est blanc. Vous ne connaissez même pas la couleur blanche puisque tout est blanc. Eh bien, là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que comme on est habitué à voir autour de nous une économie qui est forcément extractive, on ne peut même pas imaginer que l'économie puisse ne pas être extractive. Or, c'est bien des nouveaux moteurs économiques qui s'inventent aujourd'hui, qui ne sont pas sur l'extraction de la ressource, mais sur leur régénération. Et c'est là qu'on voit combien, finalement, cette économie n'est pas du tout un absolu, n'est pas du tout une fatalité, et qu'on peut créer la richesse autrement, et la partager autrement.
Mais pourtant, la révolution industrielle et l'Occident l'a imposée au monde entier.
Oui, je crois que je vous dis, ça fait des millénaires en fait qu'on est dans ces...
La révolution industrielle, c'est quoi? C'est fin 18e.
C'est fin 18e,
ça fait quelques centaines d'années seulement à l'échelle de l'humanité.
Oui, mais en fait, quand vous regardez les grandes civilisations hydrauliques qui ont fondé leur prospérité sur l'irrigation, sur l'extraction de la ressource eau, très vite, elles ont commencé à assécher leurs terres ou à les rendre moins fertiles et à devoir chaque fois aller chercher de la ressource ailleurs. Donc en fait, depuis, ça fait bien 5000 ans hein, qu'on s'est vraiment extrait, on s'est dit, il y a la nature et l'homme hein, dans cette civilisation occidentale dont on est héritier. Donc, c'est quand même très, très vieux. C'est très difficile d'imaginer autre chose. Moi, il a vraiment fallu que je voie ce qui se passe à côté pour comprendre que, ben non, c'était pas un absolu, quoi.
C'est ça le péché originel, c'est de nous être extraits de la nature.
Moi, je le pense. Je pense que le fondement du problème de la durabilité des civilisations occidentales ou extractives en général, c'est ça, c'est d'avoir mis la nature d'un côté et l'homme de l'autre. Oui.
Est-ce que c'est toi par hasard qui fabrique les tempêtes, les typhons, les tornades et les cyclones? Est-ce que c'est toi qui les lance sur la mer quand ça te fait plaisir?
Pour nous écrire, cestpasduvent@rfi.fr.
Nous sommes en compagnie d'Isabelle Delannoy aujourd'hui qui défend après 10 ans de recherche le concept d'économie symbiotique, une nouvelle approche qui nous permet enfin de sortir du règne de l'économie extractive basée sur l'exploitation des ressources naturelles. Un modèle qui montre ses limites d'un point de vue écologique, on vous en parle souvent dans cette émission, mais aussi d'un point de vue social puisqu'il est profondément inégalitaire, comme le démontre Nicolas Cerciron, président du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde.
10% de la population mondiale a acquis 50% de ses richesses. Et on sait que 50% de la population mondiale n'a rien, n'a strictement rien. Donc ces richesses, cette prédation extractiviste, elle est terrible. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, les matières sont exportées en brut, les emplois, la plus-value, etc., elle est au nord, chez les industriels, chez les transformateurs, chez les voleurs. Parce qu'on est des voleurs. Moi, je ne suis peut-être pas un voleur personnellement, mais je profite du vol pratiqué par les multinationales, du vol...
Vous parlez de vol, mais enfin, il y a quand même des lois internationales qui protègent normalement les populations locales.
Ah oui, 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 sûrement. Mais les multinationales, elles se font faire des codes miniers, des codes forestiers par la Banque mondiale sur mesure, et elles mentent sur les quantités, elles corrompent les décideurs qui deviennent complices de ces prédations au détriment de leur peuple et au détriment du réchauffement climatique et de l'environnement qui est détruit. Et ça n'a strictement rien à voir avec les populations. Les populations aujourd'hui d'Afrique, elles sont à un niveau de vie qui est 10 fois inférieur au nôtre. Donc on ne peut pas dire qu'on est riche par hasard. On est riche parce qu'ils sont pauvres. C'est aussi simple que ça. Je suis désolé s'il y a un tiers de la population qui ne mange pas à sa faim et qu'un autre tiers de la population est en surpoids ou obèse, il y a quand même un sacré problème. Et ce problème, c'est un problème aussi bête que ça de vase communicant. Et ce vase communicant, il a été organisé. Les paradis fiscaux sont essentiels pour comprendre ça. Les multinationales mentent sur les quantités qu'elles extraient. Quand elles vendent, elles baissent leur prix à travers les paradis fiscaux, ce qui fait que les taxes qu'elles doivent payer au pays sont extrêmement faibles. Et elles ne payent absolument pas ce qu'on appelle la dette écologique. C'est-à-dire que toutes les pollutions, toutes les destructions environnementales ne sont pas payées. C'est ce qu'on appelle un prendre sans rendre. Vous savez que les sociétés humaines se sont organisées sur le donner-recevoir-rendre. Si on reçoit, on doit rendre. C'est ça qui crée le lien social. L'extractivisme, c'est un prendre sans rendre, c'est une destruction des liens sociaux.
Isabelle Delannoy, comment réagissez-vous à ces propos de Nicolas Cerciron ?
Mais moi, j'arrive aux mêmes conclusions, en fait. C'est-à-dire qu'une société extractive ne fonctionne que ce qu'on pourrait appeler une différence de développement. Vous savez, moi, je suis ingénieure. La différence de potentiel, c'est la tension qui va faire que l'électricité va passer dans un fil. Bon, ben là, pour l'économie, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est bien la différence de développement qui permet au moteur économique de tourner. Et dans ce système extractif, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir des zones tampons de pauvreté assez élevées pour extraire et transformer la matière à bas prix, et des zones de richesse tampons aussi assez élevées pour pouvoir l'absorber, la consommer et surtout la jeter très vite pour que l'on puisse de nouveau avoir à extraire, transformer de la matière, l'assembler, etc. Et donc, on ne peut pas avoir d'égalité. D'équité, même pas égalité, d'équité dans un système pareil. Ce n'est pas possible. Parce que sinon, le moteur économique s'effondre.
Et si en plus on rajoute la financiarisation qui s'est mise par-dessus tout cela, là vous en parlez un peu dans votre livre, on est dans un monde où finalement, non seulement il y a des pauvres, des riches, et puis une dimension virtuelle.
Il faut savoir que dans les derniers chiffres dont on dispose, 95 à 98% de la richesse créée ne redescend pas dans l'économie réelle. Elle est captée en fait au niveau des flux spéculatifs. Or cette richesse économique, c'est bien nous qui la créons. Elle doit être créée par l'activité économique. Et donc, elle ne redescend pas dans l'économie réelle. Donc, si vous voulez, la monnaie, c'est comme de l'eau dans un écosystème. Ça sert à transporter, ça sert à échanger, ça sert à vivre, en fait. Donc, on a des économies locales qui s'assèchent. Lorsque vous avez des grandes surfaces, des grands centres commerciaux constitués uniquement d'entreprises qui sont cotées en bourse. Mais qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des managers de magasins qui sont payés 2000 euros en fin de carrière, je parle dans les pays industrialisés. Et ensuite, toute cette richesse-là, une fois, elle part du territoire, elle est bien amenée par les consommateurs du territoire, mais ensuite, elle part dans des flux spéculatifs et elle ne revient pas, ou très très peu. Et côté... ça, c'est dans les pays industrialisés. Ailleurs, c'est encore bien moins.
Et à côté, vous avez les agriculteurs qui n'arrivent plus à écouler leur production, les petits commerçants de centre-ville qui ferment, tout c'est qui ça. Se vide, et comme vous dites, ça s'assèche.
Ça s'assèche.
Alors en même temps, vous posez la question dans votre livre, est-ce qu'on peut imaginer une société mondiale disposant d'un confort matériel équivalent à celui de la classe moyenne occidentale actuelle, et faire tendre l'extraction de la matière vers zéro ?
Alors moi j'arrive à ces conclusions, oui. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les logiques, ces nouvelles logiques économiques et productives qui sont apparues, qu'on les assemble, eh bien, elles s'emboîtent, elles rentrent en synergie, c'est-à-dire que les effets cumulés sont bien supérieurs à ce qu'elles auraient obtenu seules, et elles forment un système économique complet où la richesse économique est là, on a bien des flux économiques très importants même, mais qui se découplent de l'extraction et surtout qui ont besoin d'avoir, c'est là où c'est étonnant, ils ont besoin pour bien circuler d'avoir au contraire des niveaux de richesse assez similaires et ils n'ont... Plus en fait vous sortez d'un modèle extractif, plus elle est performante. C'est-à-dire que c'est en faisant circuler la matière déjà extraite que vous obtenez la richesse économique. Et c'est aussi en produisant à partir des écosystèmes vivants qui ont quand même un pouvoir exceptionnel. C'est qu'ils ils absorbent le carbone invisible de l'air, le phosphate, le potassium disponible dans les sols, l'eau qui est présente aussi dans leur milieu pour en créer du matériau de construction, des molécules pharmaceutiques, des molécules à pouvoir chimique, des fibres pour absolument tout, du matériau, de la fibre technique au simple t-shirt que vous pouvez avoir sur vous. Enfin, c'est-à-dire que ce pouvoir du végétal, de pouvoir créer sa matière, et notre pouvoir à nous, de pouvoir faire circuler la matière déjà extraite, eh bien, ça nous permet d'augmenter la richesse économique tout en pouvant imaginer tendre vers une extraction zéro.
Alors, on arrive à la fin de cette première partie quasiment, donc on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail. On donnera des exemples très concrets dans la deuxième partie de l'émission. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas uniquement du bout à bout d'expérience que vous avez mis dans votre livre. Vous avez vraiment mis au point une théorie économique avec des calculs mathématiques, des équations. Enfin, c'est vraiment un travail extrêmement scientifique finalement, ce que vous avez fait.
Alors oui, c'est-à-dire que en fait, il n'y a pas d'équation en tant que telle, mais ce que je montre, c'est qu'on n'a pas d'équations. Enfin, on pourrait avoir des équations, mais il faudrait avoir beaucoup de statistiques. Or, toutes ces nouvelles logiques sont un peu passées au-dessus des radars universitaires et on manque malheureusement de données. Mais lorsqu'on assemble logiquement les choses par l'observation de la structure, eh bien, en effet, on voit des relations qui sont systématiques dans Les écosystèmes vivants vont fournir des matériaux à des écosystèmes techniques. Les écosystèmes vivants vont fournir du bien-être à des écosystèmes sociaux. Du coup, les gens vont se rencontrer et puis ils vont avoir tendance à plus facilement partager la ressource. Et c'est tout ça qui se met en synergie et qui donne des résultats qu'on ne peut pas imaginer sinon.
Résultats qui ont été passés au crible des chercheurs de l'École Polytechnique de Lausanne.
Oui, je suis contente parce que c'était une recherche autonome au départ. C'est vraiment une découverte, en fait. Et aujourd'hui, elle est reconnue par le PFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui est quand même une des meilleures universités au monde, et notamment le Centre de l'énergie de l'EPFL, et qui m'aide à publier ma recherche.
Voilà, et c'est là où ça devient vraiment académique, et donc où on pose les bases de cette nouvelle économie, l'économie symbiotique, qui serait donc, selon vous, la solution pour sortir de cette économie extractive qui a pollué la planète et qui empoisonne notre environnement et menace finalement l'avenir de l'humanité plus que celui de la planète. Alors, de quoi s'agit-il exactement et comment s'incarne-t-elle déjà ? Isabelle Delannoy, vous restez avec nous. On en parle dans quelques minutes, juste après le flash d'info. À tout de suite.